Ce trimestre, nous parlons de la formation, de l'emploi et du droit du travail. Je vous propose d'écouter une émission réalisée par des collégiens de la rive droite sur le thème des discriminations. Vous entendrez Valérie Lichanti de la Ligue de l'enseignement qui revient sur les différents critères de discrimination.
Chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes bien sur Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Vous pouvez nous écouter sur la fréquence FM 91.3 et en podcast sur le site internet www.eauderadio.net. Cette émission vous est présentée par Steve, Léo, Rukaya, Nicolas, Céline, Bastien, Lauriane
et Martina. Nous voici déjà à notre troisième et dernière émission sur les discriminations qui est entièrement présentée et réalisée par des collégiens. À nous huit, nous représentons les collèges suivants. Georges Jaurès et Sainte-Claire à Senon, Georges Laplaire à Lormont, Chambéry à Bordeaux et la maison familiale rurale de Blaye. Cette dernière émission vient clôturer le projet sur les discriminations que l'on vous a proposé de janvier à début juillet. Ce projet est destiné à vous informer sur la loi contre les discriminations pour pouvoir prévenir et lutter contre celles-ci. Il est financé par le Conseil général de la Gironde.
Avant de débuter cette émission, nous aimerions vous résumer les deux premières. Lors du premier volet diffusé sur les ondes d'Odo Radio le 27 février 2013, nous avions invité Joël Guérin, délégué du Défenseur des droits en Gironde. Dans le cadre de cette première émission, il nous a expliqué et présenté la loi contre les discriminations dans sa globalité. Il est revenu sur les domaines dans lesquels elle s'applique, l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, au stage, à un logement, à un service public ou à un lieu, à un bien ou un service. Il a aussi détaillé les 18 critères prohibés par la loi.
On peut parler de discrimination en cas de distinction opérée entre les personnes physiques ou morales en raison de leurs origines, leur sexe, leur situation familiale, leur situation de grossesse, leur apparence physique, leur patronyme, leur état de santé, leur handicap, leurs caractéristiques génétiques, leurs mœurs, leur orientation ou identité sexuelle, leur âge, leur opinion politique, leur activité syndicale et leur appartenance ou leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race.
Nous avons sélectionné les 8 critères qui nous ont le plus parlé. Nous avons réparti ces 8 critères sur 2 émissions. Dans l'émission diffusée le lundi 20 mai, nous, collégiens, avons parlé de 4 critères parmi les 8 sélectionnés. Le critère de l'âge, celui du sexe, celui du patronyme et celui de l'origine. Et pour nous éclairer sur ces 4 critères, nous avions invité Hélène Boineau, chargée de l'action d'éducation à la lutte contre les discriminations de l'association Boulevard des Potes à Bordeaux.
Aujourd'hui, nous allons continuer de vous présenter les 4 derniers critères qui nous tiennent à cœur, c'est-à-dire celui de la situation de grossesse, celui du handicap, celui de l'orientation et de l'identité sexuelle et enfin celui de l'apparence physique.
Aujourd'hui, sur le plateau de Radio, nous avons le plaisir de recevoir Valérie Vicenti, coordinatrice éducation à la citoyenneté à la Ligue départementale de l'enseignement. Bonjour Valérie Vicenti.
Bonjour à tous.
Bienvenue sur le plateau de Radio. Nous vous avons invité aujourd'hui pour que vous nous parliez de la loi contre les discriminations et en particulier des 4 motifs de discrimination. Le handicap, l'apparence physique, la situation de grossesse et pour finir l'orientation ou l'identité sexuelle. Mais avant ça, Valérie Vicenti, veuillez nous présenter votre association, votre fonction et votre action au sein de la Ligue de l'enseignement.
Oui, bien sûr. Donc, je travaille à la Ligue de l'enseignement et la Ligue de l'enseignement est une fédération d'éducation populaire qui accompagne les projets scolaires liés à l'éducation nationale. Notre fédération rassemble à peu près 500 associations qui mènent des projets, que ce soit dans le sport, la culture, les loisirs, les vacances, la citoyenneté, le développement durable. Et elle fédère aussi, elle conseille toutes les associations qui, telles que Eau de Radio, qui veulent mener des projets.
D'accord, merci.
Premièrement, nous souhaitons revenir avec vous sur le critère du handicap. Et avant de vous laisser la parole, écoutons ensemble un micro-trottoir que nous avons réalisé à ce nom sur ce critère.
Pensez-vous que dans l'accès à un emploi, une formation professionnelle, un logement, un service public, vous pouvez être discriminé par rapport à un handicap ?
Ben, je pense oui, d'autant plus que je travaille au foyer autrement, juste ici à la Morlette. Donc on peut vivre au quotidien toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Voilà.
Par exemple ?
Eh bien, notamment pour la prise du tram. C'est pas toujours évident, les gens comprennent pas forcément qu'ils ont besoin d'un petit peu plus de place. C'est toujours. Ils ont parfois des réflexions qui les blessent et qui, du coup, ils osent plus trop sortir. Et, enfin voilà, ça les aide pas.
Oui, le boulot et le logement aussi.
Dans certains cas, c'est possible, oui. Surtout pour l'emploi, par rapport aux transports en commun ou qui sont pas toujours adaptés au niveau des bus où la marche est très haute, la marche avant, sur les 32 notamment.
Oui, il y a des clichés tout le temps, en fait, dit qu'on est handicapé, même si ça ne montre pas, en fait, ça prend moins en compte les gens handicapés que les gens non handicapés. Donc, oui.
Oui, ça dépend du boulot. Il y a des boulots, quand on est handicapé, on ne peut pas postuler à ce boulot-là. Donc, l'handicap, ça peut être un frein pour le boulot.
Bien sûr que oui. Mais maintenant, je veux dire, de nos jours, il y a beaucoup de discrimination un peu dans tout.
Je pense que oui, il doit y avoir certains services qui discriminent, oui, par rapport à l'handicap, que ce soit physique, moteur ou mental. Après, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que oui, il doit y en avoir plus qu'on le croit, ouais.
Je pense que c'est possible, ça dépend des personnes qu'on a en face au fait, et ça dépend si l'handicap est visible ou pas.
Oui, je pense que oui, ça arrive, c'est très régulier d'ailleurs, même si c'est obligatoire d'avoir un pourcentage d'handicapés dans une entreprise, il y a très peu d'entreprises qui le font, donc oui, ça arrive très fréquemment en France. Voilà.
Je pense pas. Moi, je porte aucun jugement à partir du moment où le poste peut être pourvu par une personne, même si elle a un handicap, et qui peut assurer le travail, qui peut assurer ses fonctions, je vois pas pourquoi il y aurait discrimination. Parce qu'il y a du boulot pour tout le monde, et il y a du boulot. C'est dur, mais il y en a pour tout le monde, qu'on a un handicap ou pas. Et il faut juste postuler au bon poste.
Bah oui. Par exemple, en fauteuil roulant, ou c'est compliqué.
Que pensez-vous des témoignages que nous venons d'entendre ?
Donc les témoignages ne font que refléter ce que pense la société à travers la vie au quotidien. Il est vrai que les handicapés peuvent se sentir victimes de discrimination. Toutefois, il existe deux lois qui les protégeraient un petit peu. La première, c'est la loi contre l'exclusion qui existe depuis 2002. Et il y a la loi qui protège justement les personnes handicapées ou qui remet l'handicap face à la société d'aujourd'hui, qui est la loi contre l'handicap et qui existe depuis 2005, qui oblige tant les institutions, tant les bailleurs sociaux, toutes les structures municipales, départementales, régionales ou nationales. Cette fameuse loi impose qu'il y ait des aménagements justement pour rendre accessibles tous les lieux publics. En termes de transport aussi, il faut les aménager. Ça prend du temps. Parfois, ça coûte cher. Et parfois, il faut un peu tirer les oreilles aux uns et aux autres pour rappeler que cette loi existe et que c'est une obligation. Et il faut qu'ils mettent tout en place. Après, je peux très bien comprendre que le regard sur les handicapés peut être gênant. Ce qu'il faut changer, ce sont les mentalités de la société. Pourquoi une personne handicapée doit être regardée autrement? Pourquoi il y a eu besoin de créer des lois pour les protéger, alors que tout citoyen, normalement, doit pouvoir bénéficier des mêmes droits et des mêmes devoirs?
D'accord, merci. Comme on a pu l'entendre dans les réponses du micro-trottoir, souvent, quand on aborde la question du handicap, les témoins évoquent le cas des personnes en fauteuil roulant, alors que le registre du handicap est beaucoup plus large. Qu'en pensez-vous?
Je suis tout à fait d'accord. L'handicap, il se décline de plusieurs façons. Il y a l'handicap mental, l'handicap physique, et on peut même parler d'handicap social par certains moments. Parce que si on inclut justement la problématique de la vie, ça peut être handicapant. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je travaille depuis 2-3 ans, au sein des collèges, des lycées, il nous arrivait de mettre des élèves en situation de classe un petit peu à part, qu'on appelle SECPA, qu'on appelle ULIS, qu'on appelle CLIS, qu'on appelle CLIN, et c'est toujours des élèves scolarisés autrement. Depuis 2002, depuis cette fameuse loi, l'enfant peut être scolarisé normalement. Maintenant, ça demande toute une démarche à mettre en pratique. Soit il a besoin d'un adulte, qu'on appelle un AVS, pour l'aider à prendre des notes, pour écouter quand il est un petit peu fatigué, et l'aménagement des locaux. C'est pour ça que dans certains collèges et lycées, on a besoin d'un ascenseur, on a besoin de pentes pour l'handicap physique. L'handicap mental est plus difficile à déceler. Parce que où ça se passe dans la tête, et là aussi c'est tout un accompagnement pédagogique qu'il faut avoir, ou alors il ne voit pas ou il n'entend pas. Mais cette fameuse loi préconise bien de tout faire pour que la personne soit intégrée dans la société normalement.
D'accord. D'après vous, dans quel domaine les personnes en situation de handicap sont-elles le plus touchées par les discriminations ?
Tout ou aucune. Une personne handicapée, malheureusement, est peut-être plus victime, encore une fois, par rapport au regard que l'on porte sur eux. Un handicap, ça peut faire peur, parce qu'on ne le connaît pas. Ou alors on se dit, oh là là, le pauvre, j'aimerais pas être dans cette situation, mais il faut surtout pas lui parler comme s'il pouvait pas comprendre. Parce que physiquement, qu'est-ce qui lui manque? Un bras, une jambe? C'est pas très grave, il peut discuter normalement avec vous. Si c'est mental, c'est pareil, il faut adapter le discours. Il ne faut pas minimiser l'handicap, ça doit être un citoyen comme nous tous.
D'accord.
C'est bon?
Valérie Vicenti, aujourd'hui, que mettent en place les institutions de la Gironde pour lutter contre les discriminations vis-à-vis des personnes en situation de handicap? Que reste-t-il à faire pour demain?
En Gironde, on peut dire qu'à 90%, n'importe quelle structure peut être accessible aux handicapés. Malheureusement, là j'ai un exemple qui me vient en tête de suite, c'était une remise de médailles avec un secteur du plein air e-sport de chez nous, et est arrivé un monsieur en fauteuil. Et la remise des médailles se faisait sur la scène. Et dans cette structure, qui est pourtant appartient au conseil général, il y avait juste un petit oubli, il n'y avait pas de plaque pour que le monsieur puisse être décoré comme tous les autres sur la scène. Bon, évidemment, il y a eu un grand blanc, toutes les personnes se sont senties gênées. Mais ça aussi, ça peut être constructif en se disant, tiens, on a pensé à tous les aménagements, mais là, voilà, il y a eu un loupé, il n'y avait pas la plaque pour que le monsieur puisse arriver jusqu'au bout de la scène. Donc symboliquement, on est tous descendus pour se mettre à côté de lui. Mais c'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire.
D'accord, merci. Nous allons maintenant aborder le critère de l'apparence physique en écoutant tout de suite le micro-trottoir que nous avons réalisé à ce nom sur ce critère.
Pensez-vous que dans l'accès à un emploi, à une formation professionnelle, un logement, un service public, vous pouvez être discriminé par rapport à votre apparence physique?
Oui,
Je suis chef d'entreprise, donc parfois je reçois des gens qui leur apparence physique ne me
convient pas.
Voilà, apparence physique c'est comme beaucoup, ouais, parce que un jeune qui veut du boulot, oui. Un jeune qui est mal habillé, oui. Faut être sérieux dans l'habillement aussi.
Ah, ce serait pas sympa, mais ça peut sûrement arriver, oui, je pense. Mais c'est pas normal du tout. Plutôt le look. Mmh. Quelqu'un qui est un peu négligé, forcément, c'est pas. C'est pas super pour l'embauche.
Parce qu'on est souvent jugé sur son physique.
Oui, j'ai pas mal d'amis oui, qui ont eu des problèmes par rapport à ça.
Oui, oui, ou par rapport à leur poids aussi.
Oui. Ben, suivant les gens, suivant le poids, tout ça, ça change. Il y a du racisme, de la discrimination, beaucoup.
C'était une question de poids ou de...
D'origine.
Il y en a qui le font, mais c'est déplorable. Un petit peu tout, ça dépendait. Je travaillais à l'hôpital, donc l'hôpital, c'est quand même un milieu assez comprimé, avec beaucoup de femmes. D'accord. Et malheureusement, il y a des personnes, oui, qui font de la discrimination, un peu sur le look ou la nature même de la personne, quoi. Enfin bon, c'est dégoûtant.
Que pensez-vous des témoignages que nous venons d'entendre ?
Alors, les témoignages abordent plusieurs exemples d'aspect physique. Il y en a qui ont répondu par rapport au look. Il y a même une dame, je crois, qui a dit « Qu'est-ce que vous entendez par là ?» C'est vrai que qu'est-ce qu'on peut entendre par là, par l'aspect physique ? Soit c'est le look, et là, on peut effectivement se faire une idée, imaginer des choses sur les gens par rapport au physique. J'avais envie de dire, jusque-là, c'est pas trop grave. Tant que c'est un aspect physique vestimentaire, ou parce que c'est pas les vêtements de marque, ou parce qu'on s'aperçoit que le pull, ben, il est un petit peu fatigué, un peu déformé. On va se dire, oui, alors c'est bon. Moi, j'ai entendu une expression dans un collège que je connaissais pas du tout, c'est un crevard. Donc, je me suis dit, c'est quoi un crevard? Et pour le petit jeune qui venait de dire ça, bah, t'as vu, il a pas d'argent, il est paumé, sa famille a pas une thune, chahi, alors est-ce, pour autant, est-ce qu'il faut le juger? Bah, pour l'autre personne, oui, c'était déjà un jugement. Et moi, ce que je m'amuse à faire par rapport à l'aspect physique, même avec des adultes, dans des formations autour de la lutte contre les discriminations ou les stéréotypes ou autres, je fais un jeu qui s'appelle le premier regard. Là, c'est comme si on était dans un groupe, on se regardait, sans se parler, on se juge, on estime, on évalue. Et forcément, l'aspect physique, on va le prendre en compte. Le tout, c'est de se corriger et de dire, peut-être que cette personne, même si elle ne s'habillait pas comme ça, elle n'a pas cette représentation-là. Mais c'est vrai que quand on cherche un boulot, c'est important de s'habiller. Quand vous passez un examen, un brevet ou quoi, vous avez passé le brevet récemment ? Non ? Bon, ben, vous allez voir, vous allez faire un petit effort vestimentaire. Parce que vous savez que l'autre va vous juger par rapport à ça. Après, l'autre aspect physique qu'il y avait dans le témoignage, c'était les origines. Mais moi, je ne mettrais pas les origines dans ce critère-là. Les origines, c'est plutôt lié à l'ethnie supposée ou avérée. Et l'aspect physique, c'est oui, mon premier regard, ma première impression, et qu'on le veuille, l'humain est ainsi fait. On va juger quelqu'un rien qu'en le regardant une fois et comment il est habillé, quelle est sa pratique. Si en plus il a des vêtements qui me font comprendre qu'il vient d'une autre culture ou d'une autre religion, ça peut inciter sur le jugement de valeur.
Merci. Alors, dans la réponse au micro-scrotoir, les témoins font allusion au fait d'être mal habillés, au look, au poids et aux origines. Comment lutter efficacement contre l'ensemble de ces discriminations regroupées sous le terme d'apparence physique ?
Comment lutter ? C'est ce que je fais un peu dans mon travail au quotidien, c'est essayer de... On a le droit d'avoir un jugement, c'est humain. Toute personne a des comportements, le tout c'est de réfléchir, de comprendre et de connaître l'autre. Et ce n'est qu'en discutant, qu'en faisant des choses partagées, alors nous on est très éducation partagée, ça veut dire, je t'apprends quelque chose, mais toi aussi tu peux m'apprendre quelque chose et ensemble on construit. On peut pas tout seul. Donc pour lutter vraiment contre ces préjugés, c'est ça, c'est connaître l'autre, connaître avant de juger. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde, mais au moins on le fait en choisissant bien en son âme et conscience, bah, j'aime ou j'aime pas, je connais pas, mais on juge pas comme ça sans connaître.
Merci. Pensez-vous que les jeunes sont plus discriminés par rapport à leur apparence physique que les autres personnes ?
Ah, la jeunesse, vaste chantier, la jeunesse a toujours été maltraitée, depuis la préhistoire. Ça n'a pas changé aujourd'hui, malheureusement. Et la jeunesse, bah oui, c'est un petit peu le bouc émissaire de la société. Généralement, quand on va nous parler de la jeunesse, on va nous montrer toujours le côté négatif. On va pas nous montrer, ou alors très rarement, le côté positif de la jeunesse. Et forcément, c'est ça, le jeune, c'est un petit peu le bouc émissaire, mais ça a toujours été comme ça. Alors, comment lutter? Ben, c'est montrer de quoi vous êtes capable, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. À travers cette émission, ben, vous êtes jeune et vous nous montrez ben, que les jeunes, c'est pas forcément ce qu'on croit, que vous vous engagez, que vous vous impliquez, et qu'il faut croire en la jeunesse. Malheureusement, dans les transports communs ou autres, dans le logement, on va pas forcément faire confiance directe aux jeunes. Dans l'emploi, c'est pareil. On va dire, oh là là, c'est un jeune, qu'est-ce que je fais? Mais de notre côté, on peut pas avoir un premier emploi et avoir de l'expérience et ne jamais travailler. Et le look, une fois de plus, ce qu'on va peut-être excuser à un adulte, quoique moi je pense que les jeunes sont déjà des adultes, bah comme c'est les jeunes, on va dire, ouais, c'est ça les jeunes. C'est un combat de tous les jours, mais on va y arriver.
Que pensez-vous du refus de transport d'une personne en surpoids? Quelles solutions peuvent être mises en place pour lutter contre cette discrimination en Gironde?
En Gironde et partout. Partout en France, une personne qui est en surpoids, ça va être un petit peu compliqué. Alors certains vont nous dire que bah, une personne en surpoids, en transport, ça va être compliqué si elle est toute seule, si jamais il y a un accident. Mais il n'y a pas des accidents tous les jours. On a tous entendu parler de cette dame en surpoids qui a voulu prendre l'avion. Et ça a été compliqué. Je crois qu'on l'a carrément interdit de prendre cette ligne parce qu'elle était toute seule. Après, dans plein des métiers, c'est malheureusement un critère. Pour être mannequin, il faut pas être en surpoids. C'est compliqué. Pour être hôtesse de l'air, il faut pas dépasser tel poids. Là, on est complètement dans les droits bafoués. Donc, il y a des associations qui luttent pour ça. Hein. Même vous, n'importe quel citoyen, si vous êtes témoin, si vous constatez ça, normalement, la compagnie ou le transport se doit d'embarquer, puisque c'est un embarquement de la personne.
Merci. Valérie Vicenti, après ces deux séries de questions, on va faire une première pause musicale, tout en restant dans le sujet de la loi contre les discriminations. Avec le titre « Sois fier de ce que t'es » de Sultan, nous l'écoutons tout de suite.
Sois fier de tes valeurs avant celles de l'oseille. On connaît tous l'échec, montre juste le meilleur de toi-même. Sois fier de ce que t'es. Sois fier de ce que t'es. Sois fier de tes valeurs avant celles de l'oseille. On connaît tous l'échec, montre juste le meilleur de toi-même. Sois fier de ce que t'es. Sois fier de ce que t'es. En toi c'est les beaux jours, au-dessus de toi le ciel est gris. Sujet des mauvaises langues, mais ta fierté t'as déjà tout dit. Le regard de ta mère, fier de vivre ses raisons. Mais sois fier de tes fautes, les ratures peuvent en dire long. C'est sûr que ça fait mal de croire que l'on n'est rien. Tu ne peux qu'aller plus haut, vu l'endroit d'où tu viens. J'avoue qu'on est perdu depuis que nos réponses nous questionnent. T'es l'enfant de quelqu'un, donc tu ne peux pas être personne. Fier de handicap, prends pas que tout s'arrête. Ta fierté n'a pas de prix, même si ici tout s'achète. Tu connais les problèmes, par cœur tu les récites. Si pour toi c'est plus dur, c'est que t'as beaucoup de mérite. Sois fier de tes valeurs avant celles de l'oseille. On connaît tous l'échec, montre juste le meilleur de toi-même. Sois fier de ce que t'es. Sois fier de ce que t'es. Monter monter les étages, t'entends les bruits de couloir. Solitaire devant le choix, la vie c'est comme un isoloir. Les petits font de grandes choses, donc comment les prendre de haut? Fier de nos destins moches, c'est normal qu'on fasse les pots. C'est la sueur nos fronts qui remplit nos assiettes. Pourquoi baisser les bras si tu peux lever la tête? Sans sortir ça vaut cher, la chance est des deux vies. Fier de rapper des textes plutôt que pousser des cris. Parmi les bons vivants, je suis fier de ma douleur. Sans faire des rondeurs, sans faire de ta couleur. J'apprends de mes erreurs, alors j'en sais beaucoup. On deviendra plus fort, nos faiblesses sont des atouts. Sois fier de tes valeurs avant celles de l'oseille. On connaît tous l'échec, montre juste le meilleur de toi-même. Sois fier de ce que t'es. Sois fier de ce que t'es. Celui qui reflète ton miroir, t'es seul à te guider quand tout plonge dans le noir. J'allume les lueurs d'espoir, malgré les déceptions, on ne cessera d'y croire. Ton reflet dans ton miroir, t'es seul à te guider quand tout plonge dans le noir. J'allume les lueurs d'espoir, malgré les déceptions, on ne cessera d'y croire. Ça vient de ce que t'es. 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 Ça vient de ce que t'es.
De retour sur Odeur Radio 91.3 FM et en podcast sur www.odeurradio.net. Vous êtes toujours à l'écoute de la dernière émission sur la loi contre les discriminations, en compagnie de Valérie Vicenti, de la Ligue de l'enseignement, avec qui nous sommes revenus sur deux critères de discrimination, le handicap et l'apparence physique.
Maintenant, parlons du critère de la situation de grossesse avec une série de questions, mais d'abord, écoutons le micro-trottoir que nous avons réalisé à ce nom sur ce critère.
Pensez-vous que dans l'accès à un logement, formation professionnelle, un emploi ou un service public, vous pouvez être discriminé par rapport à votre situation de grossesse?
Oui, sûrement. Je pense, oui. Mais parce qu'ils ne vont pas vouloir vous employer si vous êtes enceinte. C'est ce que je pense.
Non,
moi, j'ai pas de cas précis. Non, non.
Ça arrive d'être discriminée sur ce point-là, mais il ne faut pas non plus, parce que toute femme a le droit de désirer une grossesse, d'avoir des enfants. Il y a des employeurs qui ne veulent pas parce qu'ils disent oui, mais les femmes, après, voilà, elles vont s'arrêter pour leur enfant et tout. Ben alors, il faut bien continuer le monde, le peupler. Donc, il faut embaucher des femmes, même si elles sont enceintes. Oui, on refuse de les prendre parce qu'il y a toujours ce souci de l'employeur qu'elle va s'arrêter pour sa grossesse. Justement, ma petite fille a eu ce problème-là.
Ah, d'accord.
Voilà.
Oui, parce qu'a priori, on va devoir s'arrêter pour mettre au monde son enfant. Donc. Du coup, il va y avoir des congés qui vont devoir rémunérer. À mon avis, ouais, un petit peu, ouais. Ouais, je pense. Après, tout dépend du terme de la grossesse, si elle va bientôt accoucher et que c'est pour après.
Les femmes sont discriminées par rapport à leur sexe, leur âge, leur apparence physique, leur orientation, identité sexuelle, leurs origines, et elles peuvent être aussi discriminées par rapport à leur grossesse. Dans ce cas, peut-on parler de discrimination cumulée?
Oui, alors là, il y en a qui cumulent les mandats. Là, on est sur un cumul de discrimination. C'est pas simple d'être une femme hein, dans le monde du travail, dans la société, parce qu'on nous demande beaucoup. Il faut être une femme. Il faut être une maman, et puis il faut assumer des fois toute seule ces situations monoparentales. Alors, moi je connais le cas que par rapport à l'emploi. C'est vrai qu'à l'entretien, à l'embauche, ça fait partie des questions qu'un employeur peut sournoisement poser, mais généralement la question elle est aussi annexée à l'âge de la femme. Si la dame a 50 ans, on va pas forcément lui demander si dans un projet de vie personnelle, elle a l'intention d'avoir des enfants. Par contre, c'est régulièrement que entre 20 et 40 ans, on a droit à cette question. Quel est notre projet de vie? Si on a des enfants, si on a eu, si on veut en avoir. Et puis parfois, moi j'ai des copines qui ont postulé, c'était au début de la grossesse, et leur grande question c'était « je le dis ou je le dis pas ?» Ou souvent, on vient d'avoir un emploi, bon, ben voilà, on tombe enceinte, c'était pas forcément calculé, mais bon, c'est la situation. Donc, certaines le cachent le plus longtemps possible, parce qu'on a peur que l'employeur le prenne mal, qu'on ait tout un tas d'histoires. Mais depuis peu, il y a une loi qui va un peu privilégier le rôle du père. Parce qu'une femme enceinte, ça ne veut pas dire qu'elle va forcément demander un congé parental. Le papa aussi peut demander le congé parental. C'est pas forcément la femme. Donc ben là aussi, hein, petit à petit, on évolue, la société réfléchit, et on se dit, tiens, c'est vrai, c'est un petit peu la femme à chaque fois qui est l'objet, et puis ça va éviter des entre deux CV, même compétences, même expérience, un garçon, une fille. Normalement, on va prendre le garçon, parce que justement, ben, le chef de service, il se dit, ouais, c'est bon, les jeunes, elle va vouloir des enfants, peut-être que la personne ne veut pas d'enfants, on ne sait pas, il le sait pas. Et puis, bah, ça va aussi limiter justement ce questionnement. Donc, bah, la loi finalement est pas si mal faite que ça. Si le monsieur peut aussi demander le congé parental, bah, ça peut peut-être éviter cette inégalité entre hommes et femmes.
Merci. Les femmes sont discriminées dans leur relation à l'entreprise, notamment quand elles sont enceintes. Qu'en pensez-vous ? Que fait la Ligue de l'enseignement en tant qu'employeur sur cette question ?
Alors, il se trouve qu'à la Ligue de l'Enseignement, tant département régional que national, il y a quand même beaucoup de filles. Les hommes sont en minorité, donc on se pose pas la question. Voilà, ça nous interpelle pas plus que ça, parce qu'on va pas se dire, tiens, un homme, une femme, pourquoi pas. On est plutôt ouvert sur les compétences, sur les centres de ressources que l'un ou l'autre peut apporter. La Ligue mène pas de combat particulier parce que pour nous c'est naturel, hein, l'histoire du sexe au niveau de l'emploi.
Merci. Et quelles sont les politiques publiques qui protègent les femmes enceintes des discriminations ?
Alors oui, c'est un des 18 critères. Hein. Si jamais une personne est victimisée par rapport à sa grossesse, bah, comme tout à chacun contre les discriminations, elle va porter plainte, elle s'adresse au procureur de la République. Si elle a des témoins, c'est mieux, parce que c'est pas facile hein, de porter plainte quand on est victime de discrimination. C'est toujours une voix contre une voix. Mais c'est clair que ça fait partie des critères où, pour lesquels la victime peut porter plainte. En plus, si elle est salariée, elle a la deux voix, elle a la voix civile. Elle va d'elle-même ou elle peut aller aussi au pénal, au droit du travail, conseil des prud'hommes. Donc il y a des amendes pour l'employeur qui tient des propos pareils. Hein.
Merci Valérie Vicenti pour vos réponses. Toujours en votre compagnie, nous allons traiter le quatrième critère de discrimination, à savoir le critère de l'orientation ou de l'identité sexuelle. Mais tout d'abord, écoutons notre quatrième micro-trottoir réalisé à ce nom sur ce critère.
Pensez-vous que dans l'accès à un emploi, à une formation professionnelle, un logement, un service public, vous pouvez être discriminé par rapport à votre orientation ou identité sexuelle ?
Mais bien sûr, en plus en ce moment, tout ce qui se passe en France, bien sûr. Tant qu'on ne dit pas, ça va, mais dès qu'on commence à dire notre préférence sexuelle, alors là, il peut y avoir des refus aussi, à ce propos, oui.
Après... Au niveau de l'orientation sexuelle, bah, tout dépend des patrons, enfin, si les personnes sont homophobes ou pas.
Je pense que là aussi, il doit y avoir de la discrimination, oui, sincèrement, je pense que oui, je le pense vraiment. Après, là aussi, ça m'est jamais arrivé, mais oui, j'ai un ami qui a pas pu rentrer dans une entreprise à cause de son orientation sexuelle parce que ça plaisait pas au patron et tout ça. Donc après, c'est parti en justice, quoi, mais oui, je connais la discrimination comme ça, quoi.
Je pense que oui. C'est, même si ça a l'air hypocrite comme ça, je veux dire, de dire non, c'est, ça l'est, en fait. Qu'un employeur sache l'orientation sexuelle d'un employé, ça peut jouer, je veux dire, en la faveur de la personne, sachant s'il est gay ou lesbienne, on va dire, ça peut jouer en leur défaveur. C'est une question, on va dire, d'éducation, mais au jour d'aujourd'hui, on est encore dans cette hypocrisie, c'est pas forcément, on va dire, même si aujourd'hui on accepte mieux l'homosexualité qu'avant, ça reste quand même tabou pour certains employeurs. C'est pas accepté par tout le monde, c'est pas accepté par les jeunes, hein, c'est pas forcément, quand je dis employeur, personne plus âgée ou autre, c'est juste que voilà, ça peut jouer en leur défaveur, dans le sens où c'est l'orientation qui compte que la capacité, on va dire, au travail. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Non, je pense pas. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moins de gens qui jugent ça. Aujourd'hui, il y a eu effectivement les polémiques avec le mariage homosexuel, effectivement, parce que là, on demandait une permission autre que de se promener dans la rue main dans la main, que de postuler, que d'avoir un logement, que d'avoir un droit au service public. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de discrimination que ne serait-ce qu'il y a 10 ans.
Pensez-vous que les discriminations liées à l'orientation ou l'identité sexuelle sont importantes à Bordeaux et en Gironde ?
Importantes, pas plus que ça, sauf que, oui, récemment, hein, comme ça a été dit, la loi pour le mariage pour tous a réveillé quelques vieux fantômes. Moi, au collège, au lycée, quand j'étais à votre place, on apprenait autour de 39-45, on nous parlait des camps de la mort, on nous parlait, vous en avez entendu parler ? Oui ? Des gens qui étaient déterminés, et les premières victimes, c'était quand même les homosexuels, parce qu'on les considérait anormaux, malades et autres. Après, on a grandi, j'ai évolué dans les études, et pour ma génération, ça n'a jamais été un problème. Homo, lesbien, bi et autres. Et là, on s'aperçoit que c'était gagné, puis pas tout à fait, parce que ce projet de loi, il y avait des gens qui sont descendus dans la rue alors qu'on les voyait jamais dans les manifs. Ils ont pris ce projet à cœur en nous disant qu'ils étaient pas homophobes, mais que quand même, que pour se marier, c'était un époux et une épouse, et que pour être parent, il fallait un papa et une maman. Et que c'était un peu contre nature, mais ils étaient pas du tout homophobes, parce qu'ils avaient tous des amis homosexuels ou lesbiens ou autres. Donc moi, ça me fait sourire, parce que ça me fait penser à la vieille phrase « c'est sympa, mais pas chez moi ». On l'a tous entendu, ça. Moi, je suis tolérante, mais surtout pas chez moi. Et moi, je pense que récemment, en plus, il y a eu des jeunes qui ont été tabassés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils se baladaient sur les quais, autour du miroir d'eau, et qu'ils ont osé s'embrasser comme un couple normal. Non, sans parler de la côté provoque, parce qu'il y en a qui sont beaucoup dans la provoque. Moi, ça me gêne pas plus que ça qu'une fille aime une fille et qu'un garçon aime un garçon. C'est son choix. On choisit pas d'être amoureux. Maintenant, c'est vrai qu'à Bordeaux, tout ça, ça fait que les gens se lâchent. Pour autant, quand j'interviens dans les structures de jeunes, de collège ou de lycée, on a fait, il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de mars, venir une expo contre les préjugés, les clichés, les stéréotypes, et qui s'appelle la Fabrique de la Paix. Et dans ce parcours, il y avait une grande affiche, un garçon, deux garçons, le titre c'était Mohamed M. Jean. Et tous les collégiens qui sont passés, puis devaient se balader avec un questionnaire libre, mais personne derrière eux, La fiche, elle a pas porté problème, hein. Les jeunes, ils m'ont répondu, ouais, pourquoi pas. Je fais très bien, on évolue. Là, j'étais un petit peu déçue. C'était, je veux bien, mais si c'est pas mon copain. Donc, il y a encore un petit souci, c'est pas simple, c'est pas facile, mais si on dit qu'on est tolérant, si on dit qu'on est citoyen, si on dit que nous, on est plutôt pour le vivre ensemble, eh ben, il faut accepter chacun et chacune et essayer, encore une fois, de connaître, de comprendre et d'accompagner. C'est pas une maladie, c'est pas une histoire de mœurs. Chacun choisit son orientation sexuelle, et une fois, là encore, ça fait partie de ces fameux critères, où ça jamais on se sent victime, ou si vous connaissez quelqu'un qui est victime de ça, on porte plainte. Après, c'est pas facile. Quand je fais des ateliers en collège-lycée, certains en profitent, je fais beaucoup de jeux de rôle, je fais beaucoup de débats mouvants. Il y en a qui en profitent pour libérer leur parole et dire, ben voilà, moi, je sais pas, peut-être que je suis bi. C'est sûr qu'à 15-16 ans, on se cherche, on teste, on essaye. C'est pas pour autant qu'il faut rejeter l'autre personne.
Merci. Dans quelle mesure la loi sur le mariage pour tous peut faire diminuer les discriminations liées à l'orientation ou l'identité sexuelle ?
Alors, diminuer, ça, c'est un peu ce que je viens de dire. Il faut cheminer, il faut prendre son temps, il faut comprendre, on a le droit de pas être d'accord, ça tout à fait. Moi je fais partie des gens qui disent je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais je me battrai toute ma vie pour que tu aies le droit de le dire. Ça c'est un peu ma philosophie. Mais ensuite, encore une fois, il y a du travail. Alors je pense que les jeunes, vous évoluez petit à petit. Après, il y a les messages qu'on reçoit à la maison. Il y a les messages qu'on reçoit par les médias. Le tout, et ça c'est un tuyau que je vous donne, c'est réfléchissez par vous-même. Décidez par vous-même si vous avez envie d'être ami ou pas avec. Mais bon, le mieux c'est d'essayer de voir si ça se passe bien ou pas.
Merci. Si les jeunes qui nous écoutent sont victimes de discrimination liées à leur orientation ou leur identité sexuelle, pouvez-vous leur donner des contacts d'associations qui défendent les droits des gays, lesbiens, bisexuels, transsexuels ou transgenres ?
Justement, à la Ligue de l'enseignement, on travaille avec un collectif qui s'appelle le Girophare. Et le Girophare est un collectif d'associations qui défendent les lesbiennes, les gays, les transsexuels, les bi. Il y a aussi une association de parents, parce qu'il y a des parents qui sont pas choqués quand leur fille est lesbienne ou quand leur garçon est homo, et ces parents-là interviennent justement auprès des jeunes qui se posent des questions, ou ils interviennent dans les établissements scolaires pour expliquer comment ça se passe en tant que parents, et les jeunes peuvent se confier à eux aussi si jamais ils se découvrent homo ou lesbien et que ça se passe pas bien à la maison. Donc ce collectif qui est le Girophare travaille énormément là-dessus. Et ils accompagnent les jeunes aussi qui font leur coming out et qui ont du mal à comprendre ce qui se passe dans leur tête eux-mêmes, qui comprennent pas pourquoi ils sont homo, qui comprennent pas pourquoi ils sont lesbiennes, parce que voilà, il y a plein de choses qui se passent dans leur corps et ils cernent pas tout. Hein. Donc le Girophare, oui, fait du super boulot autour de ces thématiques. Alors par contre, il n'y a pas en Gironde actuellement, ou alors il faut se renseigner avec Girophare, sur un lieu d'accueil en urgence. Je sais qu'il y a une association qui s'appelle Le Refuge, qui est installée à Lyon. Justement, en discutant avec Jean-Christophe Testu sur ça, je lui dis, mais est-ce qu'il y a un lieu d'accueil ? Il s'était rapproché du Refuge pour voir sur Bordeaux comment on pouvait créer ça. Et la mairie de Bordeaux vient de mettre en place un collectif pour lutter contre l'homophobie avec Girophare. Et je crois qu'ils réfléchissent à un centre d'accueil.
Après ces dernières questions, nous vous proposons une pause musicale, toujours en lien avec les discriminations, et cette fois-ci avec le titre « Discrimination » d'un groupe de jeunes rappeurs que nous écoutons tout de suite.
Pourquoi tu regardes
comme ça, j'ai une gueule qui revient pas. Une attitude que t'aimes pas. T'es pas le premier et pas le dernier à me prendre pour un fada. J'pense quoi de ça, rien nada. J'tape dans l'arena. Ne pas minimiser, il faut réaliser. C'est notre monde qui est visé. J't'offre mon texte attisé. Ne pas discriminer, tous ensemble, zinc. Ici y'a pas de différence, juste un monde simple.
Dans la vie, on te bloque par des tas d'addictions. Si bien d'apparence, de couleur ou de religion. Trop grand, trop petit, trop clair ou trop foncé. Chrétien ou musulman, pourquoi être mis de côté?
Dans cette nation, trop de discrimination entre les couleurs de peau et les religions. Noir ou blanc, on peut pas faire autrement. Malgré ce que pensent les gens, faut aller de l'avant.
Discrimination, incompréhension, manque d'attention. Trop de tension, exclu de la société. Souvent rejeté, t'es trop foncé ou t'es pas assez.
Jamais tissé cette feuille blanche avec de l'encre noire. Malgré des apparences assez discriminatoires. Handicap de faciès, jugé malhonnête. Raciste, écoute bien, je suis pas ta marionnette.
J'ai rendu les clés, je me retrouve sur le palier. Je dors sur un carton, il fait un froid glacé. Le proprio n'a pas aimé ma tête. Je suis trop foncé, à son goût passé. La société a tombé.
Chacun son monde, chacun sa religion. Chacun a son degré de discrimination. Chacun son handicap et chacun son opinion. Certains sont radicales et d'autres dans l'opposition.
Foncez et foncez, souvent offensez. Laissez-nous avancer, stoppez vos jugements. Gardez vos préjugés et vos stupidités. Soyez plus indulgents et plus d'humilité.
Discrimination, incompréhension, manque d'attention. Trop de tension, exclu de la société. Souvent rejeté, t'es trop foncé ou t'es pas assez.
Moi et mes frères, chaque jour on galère. Pour se faire une place sur terre-terre, c'est la misère. On juge sur ton sexe, ta race, ta couleur, tes racines. Et non sur ta douleur.
C'est pas des rimes pour que ça plaise. Le regard des gens, honnêtement ça pèse. Qu'on passe sur l'égalité des chances. Pour voir un handicapé qui s'apaise. Faut des tirettes mannequins pour marcher dans la rue sans stress.
Je vis d'une société crédule aux médias qui véhicule une aridité à mon art de citer. Trop discriminé, peu félicité. Mon rap les a irrités. Car ce qui fâche c'est la vérité.
Discrimination, incompréhension, manque d'attention. Trop de tension, exclu de la société. Souvent rejeté, t'es trop foncé ou t'es pas assez. Discrimination, incompréhension, manque d'attention. Trop de tension, exclu de la société. Souvent rejeté, t'es trop foncé ou t'es pas assez.
Vous êtes sur Odoradio 91.3 FM et en podcast sur www.odoradio.net. Nous arrivons déjà à la fin de cette dernière émission sur la loi contre les discriminations en compagnie de Valérie Vicenti, avec qui nous sommes revenus sur les quatre critères de discrimination: le handicap, l'apparence physique, la situation de grossesse et l'orientation ou l'identité sexuelle.
Voici notre conclusion sur notre expérience. Premièrement, ce projet nous a apporté collectivement une connaissance de la loi contre les discriminations, les domaines dans lesquels s'applique la loi, les critères de discrimination prohibés par la loi. Deuxièmement, un apprentissage des outils liés à la réalisation d'émissions radio, écrire un conducteur radio, capturer des témoignages, les monter, réaliser une interview. Pour conclure, nous avons pu constater en particulier dans la réalisation des micro-trottoirs réalisés à ce nom, la méconnaissance et l'ignorance des personnes interrogées sur la loi contre les discriminations, ce qui était aussi notre cas avant la réalisation de ce projet. Les jeunes agissent contre la discrimination en Gironde.
En tant que militante et responsable associative, voulez-vous nous parler d'actions contre les discriminations auxquelles vous avez participé ou que vous avez réalisées ?
Alors, en tant que responsable associatif, ce qui est l'objet de mes missions au sein de la Ligue de l'enseignement, c'est effectivement tout au long de l'année intervenir auprès des écoles, des collèges, des lycées, autour de plusieurs thématiques. Thématiques qui vont englober tout ce qui est citoyenneté. Là, je me transforme en professeur d'éducation civique et j'interviens avec tout un tas d'expos, d'outils pédagogiques et on discute, on échange, on débat. Certains d'entre vous vous connaissez puisque je suis venue vous voir. On travaille autour de la laïcité, on travaille sur la lutte contre les discriminations, le devoir de mémoire aussi. On parle des conflits armés, on parle aussi de l'engagement des jeunes, qui est aussi une façon de lutter contre les discriminations, puisque c'est changer le regard des publics sur les jeunesses. Donc là aussi, je peux accompagner des jeunes qui veulent mener des projets associatifs, que ça soit au collège, que ça soit au lycée ou que ça soit dans le quartier. Ensuite, toutes les actions sont forcément... Un seul objectif, c'est lutter contre les discriminations, que ça soit à travers l'accès à la culture, que ça soit sur des pratiques amateurs, des sports, que ça soit avec un public valide ou invalide. Ce qu'on aime beaucoup, nous, c'est mettre en place des actions citoyennes. Si je suis sur un collège, forcément, je vais travailler avec de la sixième à la troisième. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse intégrer les SECPA, les ULIS et des classes d'accueil des primo-arrivants. Ce qui n'est pas gagné de suite, parce qu'un principal va me dire « Ok, on va faire ce projet avec telle classe », et c'est moi qui lui dis « Mais dans ce collège, il y a une SECPA, il y a une ULIS, pourquoi on ne peut pas le faire ensemble ?» Donc on travaille ensemble sur la même thématique. Un, ça évite les préjugés des élèves sur les autres élèves, parce que là aussi, ça c'est plus dans les lycées. C'est un lycée, c'est énorme, il y a plein de salles, et des fois je m'adresse aux jeunes en disant « Tiens, je cherche la classe ». Des primo-arrivants. Elle me dit, des primo-arrivants, c'est quoi ça? Je dis, ben oui, c'est des élèves qui viennent d'arriver, qui parlent pas français, qui sont pour l'instant dans une... Ah, la classe des étrangers! Et ils se connaissent pas. Donc mon but aussi, c'est de mélanger les classes sur des programmes citoyens. Ensuite, mes collègues, ils luttent aussi contre les discriminations. Hein. La déléguée culturelle va mettre des pièces de théâtre, des expos, des artistes. Et forcément, c'est un lien de comment lutter contre les discriminations. À travers le sport, l'UFOLEP va tout faire pour que les territoires se connaissent, que les quartiers se connaissent. Voilà, c'est pour casser les clivages. Toutes nos actions sont forcément axées sur la citoyenneté et forcément la défense des droits humains.
D'accord. Pensez-vous que l'action politique soit suffisante pour lutter efficacement contre les discriminations? Quelles autres actions sont possibles?
Alors, certes, il y a les politiques, la gouvernance, les lois, les décrets et autres. Mais rien ne peut se faire sans l'accompagnement des citoyens, des individus et des associations. Il y a tout un tas d'associations qui vont dire « Ok, la politique c'est ça, mais pour l'instant ça va pas. Elle est pas assez bien, elle est pas assez connue. » Et les gens qui sont victimes de discrimination ne savent pas comment s'orienter, que faire. Donc il y a plein d'associations, il y a Boulevard des Potes, il y a SOS Racisme, il y a France Liberté... Tous les patronages laïcs, toutes les amicales, tous les foyers pop vont pouvoir accompagner n'importe quelle personne en situation où ce qu'on dit les droits bafoués. Toutes les associations font ça. Ensuite, c'est vous. C'est vous parce que vous avez été formé, parce que vous connaissez, parce que vous avez été sensibilisé. Vous devriez être à même de dire « Attention, ça c'est du racisme, ça c'est de la discrimination. Halte là. » Oui ou non?
Oui.
Merci.
Nous voilà à la fin de cette troisième émission. Nous remercions notre invitée présente sur le plateau, Valérie Vicenti, de la Ligue de l'Enseignement, d'avoir répondu à nos questions. Nous remercions l'ensemble des collégiens qui ont réalisé cette émission, à savoir Nicolas à la régie technique d'Ode Radio, et au micro Bastien, Céline, Lauriane, Steve, Léo, Martina
et Rukaya. Nous vous remercions aussi, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pendant cette émission. Et enfin, nous remercions le Conseil Général de la Gironde pour le financement de ce projet, sans oublier Ode Radio, sans laquelle la réalisation de ces émissions n'aurait pas été possible.
Merci à tous, à très bientôt sur les ondes d'Ode Radio 91.3 FM et sur le site internet www.oderadio.net. Yeah.